Donc, oui, la naturalisation de la technique au péril de son imaginaire social. Bon, je vais essayer de vous dire ce qu'il y a derrière ça. Je vais partir d'une remarque qu'a faite une spécialiste d'histoire des sciences et de la technoscience, qui est Bernadette Bassot de Vincent, et où elle remarquait que, à propos de ce qu'on appelle les nouvelles technologies, que ce soit les biotechnologies, les nanotechnologies, la biologie de synthèse, le numérique, etc., on parle sans arrêt de révolution. Hein, chaque nouvelle technologie est une révolution. Et en contraste, ben, on parle de transition écologique, et même souvent la transition écologique est réduite à une transition énergétique, comme s'il y avait un contraste en une sorte de prolifération des nouveautés techniques, et puis une grande difficulté à dire un changement que pourtant, hein, là, et je pense la plupart de ceux qui sont ici ce soir savent, un changement important, et sans doute beaucoup plus important que ce qu'on nous promet avec les nanotechnologies ou autres biologies de synthèse. Alors, c'est comme si, je vais ajouter une troisième référence, ce qui se marque aussi, et je crois que ces 2 derniers jours, on a sans doute entendu parler de 1984, pas beaucoup entendu parler, ni de Thomas More, ni de Fourier. Autrement dit, il y a une sorte de perte de l'utopie sociale, de l'utopie révolutionnaire, et comme si le terme de révolution avait été capturé au profit des technologies et n'arrivait pas à réinvestir le changement qui vient, enfin, nous sommes un certain nombre d'entre nous à espérer, donc un changement vers un autre modèle de société qui serait moins violent entre les humains et moins violent à l'égard de la nature. Et c'est ça, c'est avec ça, là-dessus, que je voudrais réfléchir avec vous ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme si le développement technique, bon, ce qu'on appelle le progrès technique, avait capturé l'imaginaire social, il n'arrivait pas, en rajoutait dans une sorte d'inflation qui laisse une inquiétude, et que par ailleurs, il n'arrivait pas à être repris par un autre type de changement qui, pourtant, je crois, aurait besoin d'un véritable imaginaire social. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que ce qu'on appelle le progrès technique a capté l'imaginaire social, l'a peut-être détruit? Alors, la réponse, c'est effectivement ce que je vais appeler la naturalisation de la technique. Et pour présenter cette réponse, il va falloir faire un retour. Enfin, je vais vous proposer de faire un retour historique. Alors, à une époque, effectivement, une époque dont on a déjà parlé ces 2 derniers jours, on va remonter pas plus haut que le XVIIIe siècle, hein, pas plus haut que les Lumières, mais c'est déjà pas mal. Et je voudrais expliquer 3 étapes, finalement, de cette capture de l'imaginaire par ce qu'on a appelé le progrès technique. C'est 3 étapes, je les désignerai par trois mots. Les progrès, dans un premier temps. Alors, ce sera un peu chronologique, hein, on partira du 18e, on passera par le 19e, on arrivera au 20e. Donc, les progrès, deuxième étape, le progrès, et troisième étape, les promesses. Et après avoir esquissé ces 3 étapes, j'en viendrai, dans un deuxième temps qui sera beaucoup plus court, à me demander mais, qu'est devenu l'imaginaire social et est-ce qu'on peut encore parler d'imaginaire social. Alors, les étapes, la première, bon, c'est relativement arbitraire hein, comme point de départ, il a été question de Bacon, je pourrais remonter au XVIe siècle. Bon, partons du XVIIIe siècle et de quelque chose dont on a parlé dans la discussion. Parlons de la publication de l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des lettres Diderot et d'Alembert, dont le premier tome est publié donc en 1751, au milieu du siècle, et où Diderot écrit l'article art. Alors, à l'époque, au moment où paraît le dictionnaire de l'encyclopédie, le terme de technique, au sens où nous l'employons maintenant, n'existe pas. Et il va falloir attendre 100 ans avant qu'on se mette à parler de technique. Donc, ce que nous, l'article que nous appellerions technique ou technologie, parce qu'on a emprunté à l'anglais, dans l'encyclopédie, c'est l'article art. Ce qui a un grand avantage, parce que en parlant d'art, et parle, je vous dis, pensez que Diderot parle de la technique, ce qu'on appelait à l'époque les arts mécaniques. Mais avec le terme d'art, il met en communication les arts mécaniques, donc l'artisanat, si vous voulez, les arts, les beaux-arts, l'art dont on a amplement parlé, et puis aussi les arts libéraux, c'est-à-dire les connaissances. Et donc, il insère la technique, les arts mécaniques, dans l'ensemble du système des connaissances que l'encyclopédie veut présenter. Et son objectif, il le dit, et il cite Bacon pour ça, c'est de donner aux arts mécaniques une dignité qu'ils n'ont pas. Hein, ils sont, à l'époque où paraît l'encyclopédie, c'est, les arts mécaniques, c'est une chose assez méprisée. Et ça va être l'importance de l'encyclopédie, vous le savez peut-être, de publier ces tables de description des métiers au XVIIIe siècle qui vont donner aux métiers une dignité aussi grande que le système des connaissances, que ce soit l'algèbre, la chimie qui commence, etc. etc. Donc, la première importance de l'article art, c'est de donner une importance à ce que nous appelons la technique, mais qui pour l'instant n'est encore qu'un artisanat. Et en même temps, de poser, et c'est la deuxième idée importante, qu'il peut y avoir un progrès des arts. Ce qui n'est pas du tout l'idée qu'on a à l'époque. Parce que l'idée qu'on a à l'époque, c'est plutôt que dans chaque métier, il y a des règles, on arrive à la perfection des règles, et à ce moment-là, on a des secrets de métier, ils sont jalousement gardés. Donc, parler de progrès des arts dans l'encyclopédie, ça va pousser à l'idée que on peut communiquer, de la même façon qu'on communique les connaissances, on peut communiquer les arts. Donc vous voyez que ça change beaucoup. Alors ça ne change pas complètement, parce que pour Diderot, ces progrès des arts ne sont pas du tout directement liés à un progrès des connaissances. Hein. L'idée que les progrès des arts viennent de l'application des sciences, c'est postérieur, hein, on vous l'a dit plusieurs, Jean-Marc Lévy-Leblond vous l'a dit. Donc, on a des arts, des progrès des arts, c'est un changement important, mais ça reste séparé des progrès des autres connaissances. Alors ça, c'est un point. Hein. Donc, de ce point de vue-là, l'article art de l'encyclopédie est important. L'autre référence que je vais prendre, c'est sans doute quelque chose aussi que vous connaissez certainement, c'est juste un an avant la publication premier tome de l'encyclopédie, Jean-Jacques Rousseau, a eu le prix de l'Académie de Dijon pour avoir répondu à la question « Est-ce que le rétablissement des sciences et des arts a contribué à, disons, améliorer les mœurs ou à les corrompre ?» Et vous savez sans doute qui répond « Ça les a corrompus. » Plutôt. Et pour cette raison, Rousseau est souvent considéré comme ce qu'on appelle maintenant un technophobe, un ennemi des techniques, qu'il n'est pas. Hein, enfin, permettez-moi de le dire et de le défendre. Vous pourrez penser autrement, ça, c'est pas le problème. Mais disons que, d'abord, vous voyez que la question posée, c'est est-ce que le rétablissement des sciences et des arts, c'est Rousseau qui va introduire la question des progrès. C'est-à-dire que cette idée nouvelle qu'il y a un progrès des connaissances des techniques, Rousseau y participe. Et je dirais que cette critique des progrès que fait Rousseau, elle précède finalement l'éloge du progrès. Simplement, pour Rousseau, il ne va pas du tout de soi que progrès des arts, des lettres, et des sciences, et progrès, disons, des mœurs, ce qu'on appelle à l'époque progrès des mœurs, ça soit un enchaînement automatique. Il pose la question. Il pose la question de ce que nous dirions maintenant, quelles sont les conséquences sociales des progrès techniques. Et je pense, et ce sera l'idée que je défendrai ce soir, que cette question, elle est toujours valable et on peut toujours la poser. Alors, pour dire que c'est bien cette question qui pose, je vais prendre une troisième et dernière référence au XVIIIe siècle, c'est tout à la fin, puisqu'on est en 1792, et quelqu'un qui s'appelle Condorcet, il va mourir. Trois semaines après avoir terminé le texte dont je vous parle, il va mourir de mort naturelle, mais s'il n'était pas mort de mort naturelle, il aurait été guillotiné. Il est girondin, Condorcet, il est traqué par la terreur, par les montagnards, il se cache chez des amis, et il écrit un texte qui est un éloge des temps à venir, qui est un des textes les plus optimistes qu'on ait jamais écrit, où il dit en gros, nous sommes dans l'époque des révolutions, et c'est irréversible, on ne reviendra plus jamais en arrière. Donc Condorcet, de ce point de vue-là, apporte une contribution est très très importante à la question que nous nous posons en disant on est dans le sens, il y a un sens de l'histoire, on ne reviendra plus en arrière. Et à Rousseau, il dit, mais non, progrès des arts, des sciences, des lettres, ça a pour conséquence, je vous lis le passage, il dit que son objet c'est de comprendre, mais il faut prouver, ça ne va pas de soi. Il faut prouver par quel lien la nature a indissolublement uni les progrès des Lumières, donc traduisez les connaissances, dont les progrès des arts font partie, et ceux de la liberté, de la vertu, du respect pour les droits naturels de l'homme, pour, disons, le progrès social, ou peut-être ce que certains hier ont appelé le progrès humain. Donc, retenez de ce premier temps que la question de quel rapport il y a entre le développement des techniques, je repasse à notre vocabulaire d'aujourd'hui, quel rapport il y a entre le développement des techniques et les améliorations sociales, ce qu'on dira après, hein, le progrès social, c'est venir à bout de la maladie, de la pauvreté, de l'ignorance, de l'oppression, quel rapport il y a, ben, la question doit être posée. Et la dernière chose qu'il faut retenir pour ce premier temps, c'est que le terme de progrès, on l'emploie au pluriel. Condorcet, je vous dis, dans ce texte, c'est extraordinaire de voir quelqu'un qui est un vaincu, hein, il est dans les battus de la Révolution, et il a un hymne aux droits de l'homme et à la Révolution française. Et le titre de son livre, que vous connaissez sans doute, ça s'appelle, Esquisse, parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps de l'écrire, Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Donc on est à la toute fin du XVIIIe siècle, on parle encore de progrès au pluriel, et parler de progrès au pluriel, ça veut dire qu'il y a une diversité de progrès, donc retenez l'idée que c'est une marche en avant, et l'idée de Condorcet qu'on ne reviendra plus en arrière. Mais il y en a plusieurs, et la question des liens entre ces différents progrès se pose. Alors, deuxième temps, le progrès. Alors, il y a eu beaucoup de discussions hier sur à propos de Victor Hugo. Hein. Est-ce que Victor Hugo, parce qu'il a condamné la Commune, est-ce que tout ce qu'il a dit sur le progrès, il n'a vu que le progrès technique? Laissons la question de côté. Retenez que Victor Hugo, il dit le progrès. Et ça va être ça, le grand changement. Alors, je n'ai pas le temps de... finalement, je connais beaucoup moins bien le 19e siècle que le 18e siècle, donc beaucoup moins développé. Mais ce qui va se passer au 19e siècle, avec des gens comme Auguste Comte, etc., c'est on ne va plus parler des progrès, on va parler du progrès, avec un grand P, et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une sorte de réunion de tous les progrès, et donc qu'on va pouvoir poser que le progrès technique est le noyau de tous les autres progrès. Alors, je vous dis, je n'ai pas le temps de développer, mais par rapport à ce qui a été déjà dit, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir, alors il n'y a peut-être personne qui a exprimé ça clairement, mais disons l'idée qui se dégage, l'idée émergente, et qui vaut encore pour beaucoup au XXe siècle, un peu moins au XXIe, c'est que du développement de ce qu'on va se mettre à appeler la technique ou la technologie, du développement de la productivité en résultat de l'industrie et de l'exploitation des ressources naturelles, on va pouvoir alimenter le bien-être de tous. Hein, et que donc la mainmise sur la nature, l'exploitation scientifique, rationnelle, technique, industrielle de la nature est la clé du bien-être apporté au plus grand nombre. Ajoutons du bien-être à apporter au plus grand nombre parce qu'il est distribué par un système économique, par une forme de production, de répartition, de distribution, bon, ce que Smith avait appelé la main invisible, qui va permettre de combattre, hein, de distribuer de le plus également possible. Mais aussi l'idée, c'est pour ça, si vous voulez, progrès technique, progrès économique, ça va se lier très fortement avec l'idée qu'on va pouvoir les mesurer et qu'on va pouvoir avoir un indice du progrès, qui est la croissance. Alors tout ça, ça prend du temps. Hein, mais c'est autour de cette idée autour de cette vision de dominer la nature pour libérer, finalement, pour développer entre les humains des relations les plus libres et les plus égales possibles, et dont on peut avoir mesure simple qui est donnée par le produit national brut. Alors ça arrive au XXe siècle. Donc, qu'est-ce qui va permettre de passer comme ça des progrès, et des progrès qui nourrissent un imaginaire social? L'idée, si vous voulez, l'idée, c'est l'idée de Rousseau, mais ce qui est l'idée des autres aussi, on peut prendre son sort en main. Hein. Vous savez, Rousseau est celui qui dit, nous les humains, nous sommes les responsables des maux que nous causons. Hein. C'est pas Dieu, c'est pas la Providence, c'est nous créons notre propre malheur. Et il précise, nous créons notre propre malheur, ce qui veut dire que nous pouvons faire notre propre bonheur. C'est autour de ça que tourne l'idée du progrès, comme vous dit, venir à bout de les droits, la connaissance, les droits, faire régresser la maladie, etc., etc. Petit à petit, on va dire, mais ça, l'indice, c'est le développement technique et l'augmentation de la richesse globale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on en vient à penser qu'on peut dire le progrès et le progrès technique? Ben, c'est ça que je désigne comme naturalisation de la technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une totalement mauvaise idée. Hein. Au départ, alors je pourrais remonter à un enfin, d'où je viens, là, au XVIIIe siècle, tout se met un peu en place au XVIIIe siècle. La question, quand on va, hein, souvenez-vous ce que je vous disais Diderot et puis d'autres, hein, j'ai pris Diderot comme référence, c'est celui qui dit, mais il y a autant de dignité dans ce qu'il appelle les arts, dans ce que nous appelons la technique, c'est aussi important que des découvertes scientifiques. Et donc, on va dire, un certain nombre de gens vont dire, mais ceux qui ont apporté à l'humanité le feu, la métallurgie, l'agriculture, bon, etc., etc., mais au fond, ils ont plus d'importance que Newton. Hein. Newton, c'est le grand homme du XVIIIe siècle. Mais une fois qu'on va dire ça, qui est une façon de reconnaître l'importance, on va dire, oui, mais ces inventeurs, on ne les connaît pas. Qui c'est qui a inventé la roue? On ne sait pas. Et donc, on va abandonner l'idée de la recherche d'un inventeur. On peut nommer Newton, on peut nommer Galilée, on peut nommer Lavoisier, on peut nommer Watt, on peut nommer... Bon, on ne connaît pas l'inventeur ni de la métallurgie, ni de l'agriculture. Et donc, on va penser que c'est le résultat d'un processus auquel beaucoup ont contribué, mais dont on ne va pas reconnaître les contributeurs individuels, et que c'est finalement une sorte de processus émergent. Hein, c'est un ensemble de résultats qu'on peut étudier comme on étudie la nature. C'est-à-dire, quand on étudie la nature, on ne cherche pas les intentions. On regarde le processus qui se forme. Ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Hein, ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Pensez à ce qui vous a été dit. Bon, je pense à ce qu'a dit Jean-Marc Lévy-Leblanc, mais d'autres l'ont dit. L'idée que la technique, c'est l'application de la science et de la science appliquée, c'est quelque chose de très très court. Hein. Il y a très peu de temps qu'on pense ça, et puis ça devient de plus en plus difficile à poser comme ça, parce qu'en fait, maintenant, c'est la technique qui se développe elle-même. Donc, prendre le développement technique comme un processus, c'est finalement, ça permet de prendre la question sur une beaucoup plus longue période. Ça permet aussi de comparer ce que font les humains à d'autres espèces animales, hein, et de se dire, mais au fond, la technique, c'est la façon dont l'espèce humaine s'adapte à son environnement, en le transformant. Ça permet d'avoir une autre analyse ce qu'on va appeler les technologies, des techniques, parce qu'au lieu d'étudier une technique à partir de la main, de la pensée qui la conçoit et du but qu'elle vise, on va se mettre à étudier ce qu'on appelle des lignées d'objets techniques. C'est-à-dire, par exemple, repartons à ce qui sera posé comme le début, pour étudier un silex, c'est pas tellement intéressant de se dire, bon, un silex, tac, bon, voilà. Si on regarde la transformation, si on fait des fouilles et qu'on regarde la transformation, les lignées de transformation des silex, ben on arrive plus facilement à la hache, hein, on comprend mieux la production et le développement des objets techniques que si à chaque fois on se dit il y a quelqu'un qui a pris un silex, et etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, et il y a des gens... très bons analystes des techniques, comme le roi Gourand, comme Quan Kiyem, qui a beaucoup réfléchi là-dessus, qui disent mais la technique, c'est un fait de la vie. Hein, ce n'est pas seulement des inventions individuelles. C'est un fait de la vie, donc on peut l'envisager comme un phénomène naturel. Donc, je vous dis, si c'est... Alors, naturalisation, ce n'est pas nature. Naturalisation, ça veut dire... La technique, le développement de la technique, c'est un processus qu'on peut étudier comme on étudie, on vient après Darwin, comme on étudie l'évolution des espèces, etc. Donc je dis, en soi, c'est pas mauvais. Ce qui va devenir inquiétant, c'est ce qu'on en fait, hein, c'est-à-dire que quand on va dire, bon, la technique, ça se produit comme se produit un processus naturel, et qu'on va dire, ben, ça veut dire qu'on n'y peut rien. Hein, ça veut dire que ça se fait malgré nous et qu'on n'a qu'à l'accepter. Alors, pour faire croire ça, on a inventé un peu des choses qu'on a appelées des lois. Vous en avez peut-être entendu parler. L'une qu'on a nommée loi de Gabor, hein, l'idée que tout ce qui est techniquement possible se réalisera. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas développer là-dessus, mais philosophiquement, c'est très difficile à affirmer, parce que ça veut dire en gros qu'on renonce à l'idée de possible. Si on pense que ce qui fait la différence entre ce qui est possible et ce qui est, c'est qu'il y a des possibles non réalisés, quand on dit tout ce qui est techniquement possible se réalisera, c'est une façon de dire le possible n'existe plus. Philosophiquement, c'est dur, hein, bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais pratiquement, ça veut dire... Ne vous opposez pas aux inventions techniques. Du moment qu'elles sont possibles, elles existeront. Acceptez-les. Autre loi, prétendue loi, loi de Moore, hein, l'idée que la cadence de miniaturisation, des réductions de coûts des composants électroniques va croissant. C'est pas une loi, hein, c'est pas une loi au sens où la loi de la chute des corps est une loi. C'est un programme économique. C'est d'ailleurs comme ça que Moore, qui travaillait pour une entreprise, l'a conçu. C'est une façon de dire, investissez dans les composants électroniques, vous allez voir, vos rendements vont aller croissants, puisque ça va aller plus vite pour des frais moins grands. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, je vous dis... Dire que envisager que la technique se produit comme une nature, au niveau de l'étude des techniques, c'est plutôt une approche intéressante. Mais ça, c'est plutôt inquiétant quand on vous dit, ben, ça veut dire qu'il faut accepter la technique telle qu'elle est. On n'y peut rien. Alors, j'ajouterai, j'y reviendrai, D'autant plus qu'on pense que c'est le mouvement technique et le mouvement de l'économie, c'est le même. Hein, c'est ce que l'agenda de Lisbonne, en 2001, on appelle l'économie de la connaissance, hein, donc l'intégration du développement technique dans le mouvement économique. Et à partir de là, le mouvement, le développement technique devient un processus auto-entretenu auquel nous n'avons qu'à nous adapter et qui, du coup, dans l'idée de progrès, il y avait l'idée d'une finalité. Il y avait l'idée que, repensez à Condorcet, on va vers la liberté, on va vers la connaissance, on va vers les lumières. Donc c'est finalisé. Là, comme les mouvements naturels d'ailleurs, c'est pas finalisé. Et ça se marque par un changement de vocabulaire. On parle de moins en moins de progrès, on parle de plus en plus d'innovation. Hein. Qu'est-ce qu'elle demande l'économie ? Elle demande des innovations. Il y a des séminaires qui se font sans arrêt, y compris dans les instituts de recherche, pour savoir comment on va produire du progrès technique. Non, de l'innovation. Alors vous voyez que des progrès au progrès, ça s'est complètement inversé. Aussi bien Rousseau que Condorcet ne sont pas d'accord, mais tous les deux pensent que nous pouvons prendre notre avenir en main. Et nous pouvons rêver, je reprends parce que c'est le plus simple, d'un monde où il y aura moins de maladies, où on fera disparaître petit à petit la maladie, la pauvreté, l'ignorance, l'oppression. C'est, bon, on a, je crois, cité Castoriadis dans l'ouverture, c'est ce que Castoriadis appelle l'institution imaginaire de la société. C'est l'imaginaire social sur fond d'une pensée commune qui accompagne le mouvement social. Quand on passe au progrès et encore plus aux innovations que cherche l'économie, on n'a plus son sort en main. Il faut qu'on s'adapte à un monde qui arrivera de toute façon. Et c'est... J'ai entendu un certain nombre de scientifiques dire ça en biotechnologie. Ah, vous voulez pas, vous pensez que ces biotechnologies, ça pose des problèmes éthiques ? Vous savez, si vous ne le faites pas ici, ça se fera ailleurs. Ça se fera en Corée, ça se fera en Chine. D'ailleurs, dit la personne à qui je pense, j'ai un laboratoire en Chine où il n'y a pas tous les problèmes qu'il y a ici. Hein. Les Chinois, les problèmes éthiques avec la vie, pas du tout. Bon, donc c'est soumettez-vous à quelque chose qui vous échappe. Inversion complète par rapport à ce qu'étaient les progrès. Alors, inversion tellement complète, et c'est pour ça qu'il me faut un troisième temps dans ma présentation, tellement complète que finalement, pourquoi un imaginaire autour de ça ? Ça se fait. Or, souvenez-vous d'où je suis partie, il y a au contraire, il y a tout un discours, hein, qu'on désigne quelquefois comme hype, tout un discours d'hyper promesses, alors c'est ça mon troisième temps, les promesses, d'hyper promesses autour des technologies. Alors souvenez-vous, Monsanto va mettre fin à la faim dans le monde. Hein, les nanotechnologies, des espèces de petits robots qui vont se glisser dans vos artères ou vos veines ou je ne sais pas quoi, si vous avez un cancer, qui vont aller manger les méchantes cellules, etc. etc. Bon, j'en passe, c'est les meilleurs. Alors, c'est quoi tout ce discours qui se fait ? On va faire avec la biologie de synthèse, on va faire des biocarburants qui, ça réglera plus toutes les promesses. C'est complètement écologique, hein, tout ce qu'on va faire. Alors, on peut dire c'est purement de la pub, et c'est de la pub, c'est pour ça que j'ai parlé d'économie de la connaissance, dans un monde où il n'y a plus de recherche sans financement, et on est... Être chercheur, c'est être en recherche de financement. C'est être en compétition pour des financements qui peuvent être des financements publics, qui peuvent être des financements privés. Et donc, ces promesses, ce sont des promesses, font partie. Hein. Celui qui promet le plus, qui promet le mieux, il va gagner. Et je dirais, c'est d'autant plus de la pub, que, je l'ai vu, parce que j'ai un peu suivi l'affaire des OGM, on a les deux discours. Hein. On a sur les OGM, oui, on va faire pousser dans les sols salés, là où il n'y a pas d'eau, donc la faim dans le monde, c'est terminé, bon, etc. Et quand arrive la contestation des OGM qui dit, oui, mais ça peut-être que... Pourquoi vous faites ça ? Enfin, qui pose un certain nombre de questions, et puis qui commence, il y a peut-être des risques, etc. Oh ! Qu'est-ce qu'on vous dit ? Mais non, mais rien de nouveau sous le soleil. Ne vous inquiétez pas, c'est pas nouveau du tout. Depuis qu'on a commencé, hein, depuis le croissant fertile, 5000 ans avant Jésus-Christ, et qu'on a commencé à faire pousser du blé, mais on faisait déjà de la sélection. Ça, c'est le même processus qui continue. Hein. Et puis on va vous expliquer après que d'ailleurs les végétaux passent leur temps à échanger des flux de gènes. Bon, on fait la même chose. Non, on n'invente rien. C'est tout dans la nature, tout naturel. Bon, alors on peut dire c'est purement de la pub. Il y a ceux dont il faut attirer l'argent, il y a ceux qu'il faut rassurer. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, et c'est là que c'est plus enfin, que les promesses se limitent pas à des problèmes de rhétorique, à des boniments, hein, à des boniments de gens qui cherchent à vendre leur camelote. C'est aussi un programme d'encadrement et de développement de la recherche. C'est-à-dire que ça organise, hein, je n'ai pas le temps de vous le présenter, mais on pourrait prendre sur les nanos le programme de Mikhail Rocco, hein, qui prend des étapes. Le développement scientifique, qui est inséparable du développement technique, hein, c'est pour ça qu'on parle de technosciences, le développement scientifique et technique est un développement impulsé par les États, financé par les États. Vous avez des programmes. Alors, au niveau américain, par exemple, vous avez eu pour les nanotechnologies la Nano Initiative. Vous avez eu le programme européen. Au niveau européen, c'est dirigé au niveau européen, mais c'est répercuté. Donc, vous avez un programme d'encadrement, d'impulsion, et c'est de ce point de vue-là que présenter un programme comme un développement naturel, c'est une façon de dire, regardez le mouvement, vous n'avez plus qu'à suivre le mouvement. Hein. Le programme de Rocco, il parle de génération, première génération de nanotechnologie, deuxième génération, c'est tout faux. Hein. Enfin, on en est à la première génération, aux nanomatériaux, pas plus loin, mais il prend toute une suite d'autres. Et donc, ça fixe, ça oriente, ça donne des repères. Et, dernier élément, dans ces programmes financés, je vous dis, à des niveaux de européens, américains, on inclut, alors c'est pas grand chose, je me souviens plus combien c'était pour la nano-initiative, c'est du genre 2% pour les sciences humaines, mais c'est énorme, quand vous pensez aux sommes, aux milliards et aux milliards qu'il y a, ça fait de l'argent pour les sciences humaines. Et qu'est-ce qu'elles sont censées faire, les sciences humaines ? Fabriquer de l'acceptabilité sociale. Et donc, de ce point de vue-là, il s'agit de faire des programmes qui non seulement encadrent les chercheurs, et je peux vous dire, j'ai un peu fait des enquêtes auprès de chercheurs qui font des nanotechnologies. Eux-mêmes, dans leur labo, c'est pas des nanotechnologies qu'ils font, ils font de la biochimie, ou ils en font au niveau nano. Donc ça les encadre, ça leur donne un sens, ça leur donne des références, et en plus... On veut inclure la société civile. Et donc, bon, alors, il peut y avoir, on pourra en discuter, il peut y avoir une reprise contestataire, conférence de citoyens. Mais avant les conférences de citoyens, c'est des conférences de consensus. Hein. C'est-à-dire qu'on installe, on essaie de fabriquer de l'acceptabilité sociale. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Vous vous souvenez peut-être qu'on n'est pas arrivé à lancer un vrai débat public sur les nanotechnologies en France. La peur énorme, c'était que ça recommence comme pour les OGM. Donc, et on n'y est pas arrivé. Donc là, je dirais, ça résiste, mais ça montre aussi qu'il y a de l'enjeu. Donc, c'est, si je récapitule le mouvement que j'ai essayé de suivre, vous voyez comment on est parti de cette interrogation du XVIIIe siècle, où on se pose la question de vers quel avenir allons-nous, comment pouvons-nous le construire et quelles en sont les composantes. Et je vous dis, une idée importante du XVIIIe siècle, qui est nouvelle, c'est de dire le développement des techniques est une composante importante de notre imaginaire social. C'est une façon de reconnaître la dignité sociale, le caractère de citoyen, hein, des artisans qui sont avant, qui sont méprisés. On ne va pas seulement leur donner la citoyenneté dans les révolutions européennes, dans la révolution américaine, à la fin du XVIIIe siècle. On leur reconnaît une dignité sociale. Moi, je trouve ça très important. Et puis, les choses vont un peu se renverser. Ces progrès vont devenir un progrès. Et que ce progrès, au lieu de se dire on le construit, on en discute, ça ne va pas de soi, il y a des Rousseau, il y a des Condorcet, on va dire c'est un mouvement qui se produit de lui-même. Remercier, tout ce qui est progrès technique est bon pour, c'est pas seulement ce qui est pour General Motors, c'est bon pour les États-Unis, c'est bon pour le monde entier, et vous n'avez qu'à l'accepter. C'est comme ça que les choses se passent. Et quelqu'un, je sais plus si on a parlé, qui s'appelle Ulrich Beck, qui a écrit une réflexion sur ce qu'il a appelé la société du risque, dit quand même, c'est quand même extraordinaire, quand on fait une loi. Hein, on l'a vu avec la loi sur le travail. Quand on fait une loi, c'est discuté, il y a des manifestations, on se dit est-ce que c'est cette loi qu'il faut faire. Mais un progrès, une innovation, comme on dit, bah, ça va de soi que c'est bon. Et on ne le discute pas. C'est quand même pas normal. Et troisième étape, donc, enfin ce troisième temps, qui est le temps des promesses. Alors c'est récent, hein, on voit, c'est postérieur à la Deuxième Guerre mondiale, et je vous dis, c'est sans doute là, l'étonnement des initiateurs des OGM de voir que, alors si en Amérique du Nord ça passait, mais qu'en Europe ça passait pas bien, qui a fait une sorte de mobilisation autour de la question et autour des promesses. Alors j'en viens au deuxième temps, donc je vous avais dit qu'il serait beaucoup plus rapide que le premier. Mais cet imaginaire des promesses, est-ce que c'est un imaginaire social? Alors je vais essayer, vous vous doutez un petit peu de ce que je vais vous dire, je ne cherche pas à faire beaucoup de suspense là-dessus, ça n'en est pas un. Hein. Je vais essayer de donner des arguments pour montrer que ça n'en est pas un. Alors, je dirais, je donnerai trois types d'arguments sur réduction des questions sociales à un problème technique. Deuxièmement, on vous fait croire qu'il y a plein de possibles. En fait, il n'y en a pas. Et troisièmement, c'est complètement individualiste. Je vais résumer ça en une formule. Vous savez, la formule de pub de Sony. Vous l'avez rêvé, Sony l'a fait. Bah, c'est un peu le schéma de la promesse des OGM, des nanos. Hein. Si vous m'avez... Donc, vous l'avez rêvé, la fin, mettre fin à la fin dans le monde... Monsanto l'a fait. Si vous avez un peu suivi ce que j'ai dit, vous avez peut-être rendu compte qu'en fait, les choses se passent plutôt à l'inverse. C'est-à-dire qu'on se met à produire des OGM et on se dit, qu'est-ce qu'on va en faire de ces OGM? Ah, si on pouvait expliquer que ça va mettre fin à la fin dans le monde, ce serait pas mal. Donc, de ce point de vue-là, ça ne se passe même pas comme ça. Mais même à supposer que... l'innovation, alors je veux dire innovation technologique plutôt que progrès, que ça soit effectivement la réponse à un problème. Mais on sait que les choses ne se posent pas comme ça, et en particulier sur la question de la faim dans le monde. Vous savez que Amartya Sen a montré, a été repris, hein, j'ai vu personne pour le critiquer là-dessus, que en matière de famine, le problème c'est pas la quantité de nourriture disponible. Le problème, c'est l'accès. Hein. On peut mourir de faim avec des stocks de nourriture. Ça s'est passé souvent. Donc le problème, ce n'est pas de trouver des moyens techniques de produire plus de nourriture. Le problème, c'est d'améliorer l'accès à la nourriture. Et donc, présenter les problèmes comme des problèmes, disons, de rapport avec la nature, un type de rapport avec la nature avec lequel on peut ne pas être d'accord, mais peu importe, en annulant la dimension sociale, c'est passer à côté de la question. C'est en ce sens que je disais, réduire l'imaginaire à un seul imaginaire de techniques vues comme des solutions à des problèmes, c'est pas voir les problèmes. Alors, il faudrait peut-être plus parler de problèmes. Deuxième chose, vous vous souvenez peut-être de la formule de Margaret Thatcher, néolibérale, Tina, hein, there is no alternative. C'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Alors, apparemment, quand on passe... Alors, vous voyez que le mot d'ordre du progrès réduit à un développement automatique auto-entretenu d'innovation, c'est, et on vous dit, Tina, hein, there is no alternative. C'est pas apprendre ou à laisser, c'est apprendre. De toute façon, si vous ne le prenez pas, d'autres le prendront et vous devrez le prendre. Bon. Mais ce à quoi vous font croire les promesses, c'est qu'il y a plein de possibles. Hein, c'est que tout ce qui paraissait impossible, je viendrai à la dernière impossibilité qui est censée sauter, qui est celle de la mort, tout ce qui paraissait impossible va devenir possible. Or, c'est pas le cas. Hein. Alors, il y a eu des études là, très, très précises que je vais résumer. Mais disons que promouvoir une technologie, je suis toujours dans les OGM, je pourrais prendre les nanos, promouvoir une technologie implique souvent de masquer d'autres options, de faire croire que c'est la seule solution possible, alors qu'il y en a d'autres. Hein. Bon, vous avez sans doute entendu l'exemple du riz doré. Hein. On peut, par manipulation génétique, produire un riz qui a dans plus de vitamines et qui donc toujours, hein, la faim dans le monde, les Asiatiques dénutris, avec du riz doré, ils auront les vitamines qu'ils n'ont pas. Oui, c'est vrai, possible. Le problème, c'est qu'il y a d'autres cultures de riz non transgéniques qui permettent de les avoir. Et ça, alors on me dirait aussi, mais, et je parlais ce matin de l'Académie des biotechnologies, il y a toute une évaluation. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que l'évaluation d'un OGM, mettons d'un riz doré quelconque ? C'est une comparaison coût-avantage pour, cas par cas, pour cette technologie. Alors, il y a beaucoup à dire, j'ai pas le temps. Il y a beaucoup à dire sur coût-avantage. Quand on est dans les promesses, hein, comparer, alors coût-avantage, ça devient risque-bénéfice, hein, comparer des bénéfices complètement incertains avec des risques qu'on n'est pas forcément capable de calculer, c'est un calcul qui se discute. Hein, mais même sans aller là-dessus, évaluer cas par cas, c'est ne justement pas faire le type de comparaison, voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Hein. Bon, il est très bien ce riz doré, mais si on y arrive par d'autres moyens, et coût-avantage, on ne pose pas la question de mais dans quel monde social ça se passe. Hein. Est-ce que Monsanto, il faut pouvoir acheter à Monsanto. Et vous savez, bon, on a parlé avec les semences paysannes, etc., que l'effort économique de Monsanto, c'est d'intégrer les paysans en leur interdisant de reproduire eux-mêmes leurs semences. Mais ça veut dire des circuits économiques dans lesquels on peut rentrer. Donc, quelles sont les conditions sociales ? Ça, aucune évaluation de technologie ne fait. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que non seulement on ne s'interroge pas sur les alternatives, que je prends au sens anglais, mais en plus, on ne pose pas la question de ben, dans quel monde est-ce que les biotechnologies, je parlais des OGM, sont dominants. Est-ce qu'on en veut d'un monde où il n'y aura plus que du riz doré avec toutes les conséquences sociales que ça a ? C'est pas sûr. La question n'est pas posée. Et de ce point de vue-là, on peut dire que bien loin d'ouvrir des possibles, ça, en ferme. Dernier point là-dessus, on peut dire, c'est que là, je dis toutes ces promesses, ce programme de ROCO avec première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, là, c'est des robots autoprogrammés, alors qu'on est à peine dans la première et que, ou mieux, on produit des nanomatériaux. Bon, je dis, on peut se dire, c'est des histoires qu'on raconte. Non, c'est une façon de dire, ben voilà, telles sont les étapes et on passera par là. Et il y a ce qu'on appelle la dépendance de sentier, pass dependency, de dire, ben, on est tellement engagé là-dedans, on ne peut plus revenir en arrière maintenant. Donc, on crée de l'irréversible. Et de ce point de vue-là, on crée une orientation alors que d'autres possibles seraient ouverts. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que la naturalisation de la technique, présenter le développement technique comme un processus naturel auquel on ne peut pas s'opposer, c'est un déni de démocratie possible, c'est-à-dire une discussion démocratique des possibles. Dernier point que je vous avais annoncé, c'est-à-dire que c'est complètement individualiste. Alors, pour présenter ça, je vais revenir au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, je vous dis, ce émerge un peu partout dans en Europe, bon, l'idée qu'on peut prendre son monde en main, on peut essayer d'améliorer les choses. Et du coup, on se demande quels sont les indices. Bon, on appelle ça à l'époque le bon gouvernement. Quel est l'indice du fait qu'un pays est bien gouverné ? Ce qui est l'idée que le gouvernement peut quelque chose. Hein. Et quel est l'indice sur lequel on s'entend ? C'est une population abondante. C'est l'idée que quand les gens font des enfants, eh ben c'est qu'ils sont quelque part ils sont heureux. Et que c'est un signe de bon gouvernement et de bonheur des populations. Alors, c'est au cas où, dans le contexte de juste inverse où on vit, ça peut vous paraître très bizarre. Au XVIIIe siècle, on vit dans la conviction qu'on est en danger de démographie insuffisante. On est persuadé au XVIIIe siècle que l'Europe est moins peuplée qu'elle l'était à l'époque des Romains. Donc, le signe qu'un pays est bien gouverné, c'est que sa population augmente. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, un certain nombre de gens, pas tous, mais un certain nombre de philosophes, sont persuadés que la Chine est bien gouvernée, parce que là, il y a beaucoup de... Bon. Voilà l'idée qu'on se fait, mais c'était, j'insistais là-dessus pour dire, c'est une idée qui lie, pas l'individuel, la famille au collectif. Hein, c'est-à-dire, c'est à la fois une idée du bonheur global d'un pays et du bonheur des cellules familiales. Quel est ça, pour les raisons que je vous ai dites, ça a disparu. Hein, nous ne pensons pas que une démographie galopante est un signe de bon gouvernement et de bonheur des populations. Mais qu'est-ce que nous prenons maintenant comme indice ? L'allongement de la durée de vie. C'est un bon indice. Et d'ailleurs, je disais en venant ici, je disais dans le monde que avec la stagnation des salaires des classes moyennes aux États-Unis, l'espérance de vie est en train de plonger. Donc c'est un bon indice. Mais c'est un indice complètement individuel. C'est faire que ça renvoie à chacun. Cette capacité de voir les choses de façon collective qu'on avait au XVIIIe, on l'a plus. Et c'est pour ça, je terminerai la présentation là-dessus, qu'il y a des questions de transhumanisme, vous savez, vivez, même sans parler de singularité, d'homme augmenté, etc., mais l'idée, le mot d'ordre, vivez assez longtemps pour vivre toujours. Hein. Si vous arrivez à vivre assez longtemps, vous allez arriver au moment où on vivra toujours. Bon, pour moi, c'est absurde, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut dire à 7 milliards. Hein. On est 7 milliards. Et on va être plus. On ne peut pas dire à 7 milliards. Et puis, même si on dit à 7 milliards, ça veut dire qu'on va arrêter là, qui pose problème. Et puis, la question qu'on peut se poser, c'est vivre plus longtemps. Oui, mais pour faire quoi ? Hein ? Bon, c'est vrai que chacun d'entre nous, si on nous dit, bon, vous croyez avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans devant vous ? Non, vous avez tout le temps. Bon, au début, ça paraît pas mal. Mais pour faire quoi ? Ça, quelque chose d'un cauchemar, hein, de se dire, oui, ben, oui, mais pour faire des choses ensemble, pourquoi ? Hein, c'est là que je peux dire le transhumanisme, puis on appelle solipsisme en philosophie, le fait qu'on ne peut pas aller au-delà de la preuve de la subjectivité individuelle. Je dirais le transhumanisme, c'est un cauchemar solipsiste. C'est pas un imaginaire social. Pas du tout un imaginaire social. Alors, j'ai quasiment terminé. Je vais quand même faire une conclusion. Puisque ma deuxième partie, comme je vous l'avais annoncé, est négative, hein, que cet imaginaire social, j'ai essayé de vous en montrer que ça n'en était pas un, que ça ne voyait pas la question, le problème social, que bien loin d'ouvrir des possibles, ça les fermait, et que bien loin d'ouvrir à quelque chose comme un imaginaire social, c'est-à-dire du commun, du vivre ensemble, c'était, chacun était enfermé dans « je vivrai toujours », bon, très bien. Et puis je vous dis, ça ne sera pas pour chacun. Comment réconcilier les techniques et l'imaginaire social ? Est-ce qu'on peut échapper à ce que je vous disais au début ? Il y a une sorte de capture de l'imaginaire social par des promesses technologiques qui, en fait, sont creuses. Et pendant ce temps-là, l'imaginaire de la transition ne se développe pas beaucoup. Alors, je ne vais pas tout vous résoudre, ne vous inquiétez pas. Je voudrais simplement, pour terminer, résumer, reprendre hein, un certain nombre de points qui sont apparus dans des discussions et je pense beaucoup dans Sciences Citoyennes. Alors, je voudrais d'abord dire, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que j'ai dit, qu'il n'y ait pas sur moi les ambiguïtés qu'il y a eu sur Rousseau, ça serait très, très flatteur pour moi, mais... je ne suis pas technophobe, je ne suis pas en train de vous faire une critique des techniques. Hein. Je suis en train de vous faire une critique de ce que les techniques peuvent porter de creux quand il n'y a pas de vrai imaginaire technique. Il y a quelqu'un dont le nom n'a pas été cité, dont je voudrais citer le nom, qui est un philosophe important dans le renouveau de la philosophie de la technique, au milieu du 19e siècle, du 20e siècle, qui est Gilbert Simondon. Et Gilbert Simondon, qui est quelqu'un qui a beaucoup fait, bon, c'est pas facile à lire, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour qu'on pense la technique autrement, pas penser la puissance technique, mais penser ce que c'est qu'un objet technique, ce que c'est que l'existence des individus techniques, etc. Demandait qu'on ait une culture technique. Je dirais, si je reviens à ce que j'ai dit sur Diderot, c'est Diderot que j'ai choisi, mais il y en a d'autres, mais Diderot est un de ceux qui font rentrer les techniques de plein pied dans ce qu'on appelle classiquement les humanités. Hein, et que donc, il n'y aura pas seulement les œuvres littéraires, il n'y aura pas non plus seulement Newton et les œuvres scientifiques, on peut aussi faire rentrer ce que nous appelons maintenant les techniques. Je ne pense pas qu'on y soit arrivé encore. Et je pense qu'on a beaucoup à faire sur faire rentrer la technique dans notre culture. Hein. Les questions que j'ai posées dans l'après-midi, c'est pour dire très souvent, le passage par l'objet technique n'est finalement qu'un prétexte pour parler du social. Et il vaudrait mieux en parler directement à ce moment-là du social. Et on n'a pas un intérêt pour la technique pour elle-même. Je pense que les choses sont un peu en train de changer. Et je pense que de ce point de vue-là, ce que beaucoup déplorent, qui est qu'il n'y ait plus de frontières entre la science et la science-fiction, je pense que c'est peut-être une bonne chose. Et que pour que, était beaucoup question d'art, un peu moins de littérature, que entre science et littérature, il y ait des échanges féconds. Mais ça serait à voir. C'est pour vous dire, je ne suis pas en train de vous dire renvoyons les techniques hors de nous. Non, au contraire, continuons ce qu'a commencé à faire Diderot. La deuxième chose, dont il a été beaucoup question. Donc, je vous dirais, désenclaver les techniques, bien les mettre dans la culture et bien les mettre dans le social. Hein. C'est pour ça que j'ai rapidement résumé la question en disant le problème, ce n'est pas une évaluation, en fait, ce n'est pas facile à faire, des bénéfices-risques. Ça me paraît une impasse. Le problème, c'est ce que j'ai essayé de dire rapidement. Est-ce que nous voulons vivre dans le monde des nanotechnologies, des OGM et comment est-ce que le social et le technique se rencontrent et se mélangent? Troisième élément, alors il en a été beaucoup question, je ne fais que le répéter, miser sur le débat public, la liberté d'expression, le débat, et bon, donc débat public, liberté d'expression, et ça en remettant en cause l'idée tellement, je me souviens une fois d'avoir été convoqué en audition au Conseil économique et social pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que le public irrationnel ne comprend rien au développement des techniques? Bah, c'est peut-être que le public n'est pas irrationnel, hein. C'est peut-être que la seule question, c'est pas d'expliquer au public stupide pourquoi on va lui apporter des choses très bonnes. Hein. Peut-être que le public, il a des choses à dire. Peut-être qu'il a un savoir. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et de l'autre côté ceux qui ne savent pas, mais qu'il y a diversité de savoir et diversité de sachants. Encore un point, c'est l'avant-dernier. Opposé au régime des promesses scientifiques, un régime d'expérimentation collective, et de ce point de vue-là, peut-être sortir de cette espèce d'affrontement entre culture, destruction des cultures, avec l'INRA qui est scandalisé qu'on ait détruit ces cultures et les destructeurs d'OGM. Bon. Penser qu'il peut y avoir des expérimentations collectives, que ce n'est pas simplement une question de débat, que c'est aussi une question d'expérimentation. Et je voudrais juste terminer sur un point qui sera très vague, parce que ce n'est pas très facile à dire, mais je pense que ce n'est pas seulement une question de débat, ce n'est pas seulement une question d'expérience, c'est une question de sentiment, d'émotivité, de conscience. Félix Guattari en 1989 a publié un livre qui s'appelait Les trois écologies et où à l'écologie sociale, l'écologie environnementale, il rajoutait l'écologie mentale. Et je crois qu'effectivement tout ça c'est quelque chose qui se passe dans notre tête et que ce qui est difficile de comprendre c'est que ce qui se passe dans la tête c'est pas purement individuel. Il y a possibilité dans notre tête d'avoir un rapport au collectif. Alors, c'est sur cet appel que je sais très vague, mais je terminerai pour ce soir. Merci.